vous suit.
Voici les titres du journal.
Le Conseil d'État vaudois entend aider la viticulture du canton. À cette fin, il a présenté hier un plan de relance de 25 millions de francs au maximum, un plan qui s'étend sur 5 ans. Xavier Mottet retrouvera le Grand Conseil valaisan la semaine prochaine. Non réélu il y a 18 mois, il profite de la démission d'un collègue de parti pour faire son retour. Les Nuits valaisannes des images auront lieu ce week-end à la médiathèque Valais-Martigny. Valais, terre de passage, sera le thème de cette 8e édition. Le carnaval de Monté se plonge dans son passé avec une exposition et un livre, une approche culturelle qui permet de préparer autrement la 150e édition à vivre en février prochain. Du sport aussi dans ce journal. En hockey sur glace, la relève a rendez-vous cet après-midi à la patinoire du Vernet pour le 14e ICHT. Et du côté de Lausanne, le LHC a présenté hier son nouvel entraîneur à la presse romande.
Du soleil aujourd'hui et ce week-end, c'est le programme météo qu'on développe à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves.
Bonjour. Le Conseil d'État vaudois débloque 25 millions de francs pour aider la viticulture. Ministre en charge de l'agriculture, Valérie Dietli, a présenté hier un plan de relance pour ce secteur qui représente 25% du PIB agricole du canton. Un secteur qui se trouve, selon les termes de l'élu du centre, dans une situation précaire. En cause, la pandémie, la concurrence étrangère et les aléas climatiques. Dans la pratique, le projet s'étend sur 5 ans, soit jusqu'en 2027, et s'articule autour de 3 axes. La production, l'environnement et la promotion. Les mesures imaginées visent notamment une réforme des appellations. Les précisions d'Olivier Marc, président de la communauté interprofessionnelle du vin vaudois.
On cherche surtout à mieux valoriser les appellations, d'une part, parce qu'il n'y a plus que 5-6 villages qui soient connus en Suisse alémanique, par exemple, Épaisse, Saint-Saphorin, Aigle, etc. Et puis, on se demande si on ne peut pas mieux créer de la valeur avec un nouveau système. On a vu aussi qu'il nous empêchait un petit peu dans l'innovation, notamment quand on a fait l'escargot rouge, on avait des chevauchements d'appellations. Et puis, mieux innover, mieux valoriser le terroir, c'est ça les objectifs.
Avec un risque quand même de froisser, les vignerons tiennent à leurs appellations, c'est facile de négocier dans le milieu.
Alors, disons que cette analyse, parce que la première année, on va analyser tout ça, eh bien, il y aura des vifs débats, ça c'est certain, parce qu'il y aura des enjeux économiques importants pour la valeur des produits dans certaines régions, et puis pour la valeur même des foncières, de la vigne, hein, parce que naturellement, si vous êtes dans une appellation ou pas, ça a une influence.
Des propos recueillis par Justin Gray. Notons encore qu'actuellement, le canton de Vaud recense 1370 entreprises viticoles, dont 450 pratiquent l'encavage. Lancé en septembre dernier, le nouveau centre Bernouilly pour les études fondamentales a été officiellement inauguré aujourd'hui à l'EPFL, à Lausanne. En plus des mathématiques, ses activités portent désormais sur l'informatique et la physique théorique, avec un accent particulier sur les collaborations au sein du campus et à l'international. Sa gouvernance reflète la volonté de renforcer les échanges, indique un communiqué de la Haute École.
Du changement dans la délégation chablaisienne au Grand Conseil valaisan.
Oui, pour la session agendée la semaine prochaine, le démissionnaire PLR Arnaud Chalère cédera sa place à Xavier Mottet. Premier vient ensuite, l'habitant de Torgon retrouvera le législatif cantonal un an et demi après sa non-réélection, qui plus est, l'année où s'il avait pu poursuivre son mandat au Grand Conseil, il aurait eu à le présider. Suffisant pour que d'aucuns évoquent un retour par la petite porte. Xavier Mottet, ancien président du PLR, valaisan, s'inscrit en faux contre cette affirmation.
Ça fait partie des institutions. Nos institutions, elles sont bien faites. C'est qu'il n'y a jamais de vide. Lorsqu'il y a un élu qui part, eh bien, c'est le vient ensuite qui prend la place. C'est tout simplement la démocratie qui fonctionne bien.
Un clin d'œil pas forcément très agréable, mais beaucoup de gens l'ont fait lorsque l'annonce de votre retour au Grand Conseil a été faite. C'est l'année où vous auriez dû être président du Grand Conseil. Vous y avez pensé à ça ?
Forcément, on y pense un coin de la tête. Mais comme je le dis, l'institution est au-delà des personnes. Que je sois réélu ou pas, eh bien, elle continue. Le Grand Conseil fonctionne et fonctionne bien sous la présidence de Géraldine Arletta-Monnet.
Il y a tout de même des ambitions personnelles. Quand on est politicien, on a des objectifs. Celui de présider le Grand Conseil, c'en était un.
C'était une opportunité qui s'est fait à un moment donné. Moi, je mets plutôt en avant les idées et les valeurs. J'ai 2-3 combats que j'aimerais mener au Grand Conseil avec des dépôts de motions ou de suivre des motions que j'avais déposées par le passé.
Et pour son retour au Grand Conseil, Xavier Mottet espère notamment faire avancer le dossier de la liaison pleine montagne entre Viona et Torgon. La prochaine session du Grand Conseil valaisan est agendée la semaine prochaine et on précise que Xavier Mottet était interrogé par Justin Gray. Le Valais lance une analyse sur la troisième correction du Rhône. Le contexte dans lequel s'inscrit le projet a fortement évolué depuis la décision de son lancement en 2000 et le début des travaux 9 ans plus tard. Changement climatique, gestion des sites pollués ou souhait de mieux assurer à long terme le maintien des terres agricoles font notamment partie des préoccupations actuelles. L'objectif de cette démarche est de tirer les enseignements de l'ensemble des travaux réalisés jusqu'à présent. Les résultats sont attendus avant l'été 2023. 4 syndicats valaisans lancent une enquête sur les conditions de travail du personnel soignant. Cette consultation s'adresse au personnel des hôpitaux, CMS et EMS du canton. Au-delà des discours répétés ces derniers mois concernant une fatigue généralisée, l'objectif est de comprendre quels sont les éléments concrets les plus problématiques et auxquels il est nécessaire d'apporter des réponses rapides et efficaces. Et on reste en Valais où la police cantonale relève une recrudescence de l'arnaque au président. On parle d'arnaque au président lorsque les fraudeurs usurpent l'identité d'un dirigeant d'une société pour demander via un email au service de comptabilité de procéder au versement d'une importante somme d'argent. Les montants escroqués de cette manière sont considérables. La police cantonale valaisanne donne alors des conseils préventifs à la population, soit notamment de ne jamais fournir quelque information que ce soit lors de prise de contact inhabituelle et dans le doute de contacter votre supérieur si le paiement doit bel et bien être effectué. Cargo Bike a été élue entreprise Valais Excellence de l'année 2022. Forte de 213 membres, l'association récompense chaque année l'un d'eux qui s'engage concrètement dans un projet de durabilité. Par ailleurs, à l'occasion de la 10e édition de la Nuit de l'Excellence organisée hier soir à Uvrier, 5 nouvelles organisations ont officiellement rejoint l'association, parmi lesquelles figure la commune de Saint-Maurice.
Exposition, projection, conférence figure au menu de la 8e édition des Nuits Valaisannes des Images.
Le rendez-vous est pris ce week-end à Martigny, à la médiathèque Valais. Ce festival organisé par la Fondation Edelweiss a pour vocation de sensibiliser le grand public à la richesse du patrimoine cantonal. Pour Susanna Mistreau, présidente de la Fondation qui orchestre cet événement, il est essentiel d'intégrer les élèves de la région au projet. Dans ce cadre, différentes écoles s'impliquent dans cet événement, dont celle de Martigny-les-Troncs, Trois-Torrents ou encore Vouvry. Transmettre le savoir entre les générations, voilà l'un des buts des Nuits Valaisannes des Images. Susanna Mistreau.
Depuis plusieurs années, Corinne Dervé, Raymond Beuffray et Pierre-Yves Brutin, qui font partie de la commission des projets avec les écoles, mettent sur pied des œuvres que nous, on présente. C'est-à-dire, il est important pour nous que les élèves créent quelque chose, qu'ils ne sont pas des simples spectateurs. Ils reçoivent des informations, mais ils apportent aussi, ils contribuent. Ils font un effort pour une création, pour une réflexion. Et par exemple, l'école primaire de Martigny va travailler en collaboration avec la médiathèque sur les anciennes images de Martigny et il y aura une projection pendant 2 semaines à la médiathèque.
Le cycle d'orientation de Vouvry expose quant à lui des mobiles créés dans le cadre d'échanges avec le Haut-Valais, une façon de s'ouvrir à l'autre selon Pierre-Yves Brutin, adjoint à la direction du CO du Haut-Lac.
En fait, avec Susanna Mistreau, avec laquelle nous collaborons depuis de nombreuses années sur cette Nuit des Images, on a un petit peu la même visée, c'est-à-dire mettre en lien le bas et le Haut-Valais, c'est-à-dire que c'est des parties qui se méconnaissent. Et puis nous, à travers le biais des échanges, on essaye de changer un petit peu notre vision sur ce Haut-Valais et puis que les Haut-Valaisans puissent peut-être changer aussi leur vision sur le Bas-Valais et surtout de créer des liens et des ponts entre ces deux régions linguistiques, ces deux cultures qui sont quand même bien, bien différentes.
Et ce dossier vous était proposé par Martine Wüstiner.
Le carnaval de Montet dévoile ses 150 ans d'histoire dans un livre et via une exposition.
Oui, jusqu'au 3 février, la Grange à Vannay à Montet accueille triboulet, costumes et autres photos relatant les temps forts de la manifestation. En parallèle de l'exposition, un ouvrage vous plongera dans les archives du carnaval et à travers ce livre et l'exposition, c'est une autre facette de cette fête qui est présentée au public. Xavier Davenne, coordinateur de l'exposition.
Ça montre une évolution de la vie. On a eu aussi une petite analyse sociologique qui est très sympa. C'est Gabriel Binder qui nous l'a apporté. Et puis avec cet angle sociologique, on découvre qu'en fait, le Montaisan est ce qu'il est depuis le Moyen-Âge pratiquement. Et puis on cultive et on aime cultiver cet aspect un petit peu frondeur comme ça. Et puis à Montet aussi, on est à carnaval toute l'année. C'est-à-dire qu'on se déguise toute l'année. Pour comprendre carnaval et puis se rendre compte qu'en fait, il ne faut pas seulement être spectateur de carnaval, mais en devenir un acteur. lecteur, c'est ce qui fait Carnaval. Hein. Effectivement, il faut se plonger dans le livre, il faut se plonger dans cette exposition, il faut se plonger dans les visites de la ville. Et comme ça, vous allez vivre un 150e Carnaval autrement.
Oui, autrement. C'est aussi la vision que transmet justement Ludovic Chappé à travers l'affiche qu'il a imaginée, une création tout en poésie que l'on retrouve également dans les nombreuses illustrations qui jalonnent l'ouvrage dédié aux 150 ans du Carnaval. Ludovic Chappé, illustrateur.
On s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas de documents pour illustrer les recherches historiques. Il a fallu les illustrer pour le rendre un tout petit peu plus sympathique et pourquoi pas amener un discours illustratif à ces textes. C'est du bain béni pour un illustrateur, ce genre de choses. On peut aller imaginer des choses, créer des histoires. C'est vraiment génial. Enfin voilà, j'ai adoré faire ça.
À noter enfin que le journal humoristique Le Bourrillon bénéficie lui aussi d'une mise en lumière grâce à une collaboration avec la médiathèque Vallée. La quasi-totalité des éditions est consultable en ligne grâce à un travail de numérisation. Et c'était un sujet préparé par Xavier Bourgeot. On passe à l'actualité nationale. La conseillère nationale turgovienne Edith Graf Litscher, 58 ans, renonce à se lancer dans la course à la succession de Simonetta Sommaruga au Conseil fédéral. Elle l'a annoncé ce matin.
À ce propos, l'élection des deux nouveaux conseillers fédéraux ne sera pas le seul temps fort de la session d'hiver des chambres fédérales dès le 28 novembre.
Mais ces chambres qui doivent aussi valider le budget 2023 de la Confédération. Ce dernier présente un déficit de 680 millions de francs, tout juste autorisé par le frein à l'endettement. La commission des finances du Conseil national a globalement accepté les propositions du Conseil fédéral. Elle a augmenté les dépenses de 11 millions de francs, notamment pour protéger les troupeaux du loup et faire la promotion des vins suisses. Les problèmes financiers de la Confédération, c'est pour 2024 et après, le conseiller national vert fribourgeois Gerhard André, membre de la commission des finances.
Le budget 2023, il est encore dans les limites du frein à l'endettement, mais ça serait la dernière année. Là, il faut maintenant se pencher vraiment sur ces finances de la Confédération parce que dès 2024, ça ne sera plus en équilibre.
Le problème que vous avez rencontré, c'est que le Parlement prend des décisions avec d'importantes incidences financières sans consulter la commission de finances.
Quand le Parlement, dans les commissions, décide quoi que ce soit comme objet qui est conséquent de manière financière, on n'est pas consulté. Et puis là, la commission souhaite être impliquée.
Dans la cible de la commission, l'augmentation des moyens mis à disposition de l'armée.
C'est des montants conséquents. L'armée, ce n'est pas le seul poste. Il y a plusieurs objets qui vont coûter. Et si on veut faire une politique financière solide, cette commission, elle doit être impliquée parce qu'elle a cette vue globale que les autres commissions normalement n'ont pas.
Des propos recueillis par notre correspondant au Palais fédéral Serge Jubin. Ajoutons que la commission des finances du Conseil national a accepté le crédit supplémentaire de 100 millions de francs destiné à soutenir les Ukrainiens durant l'hiver dans leur pays. Après une année 2020 marquée par la pandémie et un nombre exceptionnel de décès, le taux d'occupation des EMS de 89,6% peine à retrouver les valeurs d'avant 2019, soit 94%. Le personnel a diminué de 0,2% par rapport à 2020. C'est une première, alors qu'entre 2006 et 2020, l'emploi dans le secteur avait cru de 2,5 en moyenne annuelle. C'est notamment le personnel soignant qui contribue à cette baisse, avec plus de départs en 2021 qu'en 2020 et moins de nouveaux engagements, indiqué aujourd'hui l'Office fédéral de la statistique.
La question de la conduite des personnes âgées était au cœur des discussions hier à Berne.
Le Bureau de prévention des accidents, le BPA, pense que le système actuel des contrôles médicaux imposés dès 75 ans n'est pas idéal. Selon lui, il serait judicieux d'apporter des modifications à ce système, tout en réduisant les coûts. Nicolas Kessler, porte-parole du Bureau de prévention des accidents.
Effectivement, nous ne notons pas d'effet positif, surtout si nous comparons aux pays qui nous entourent et qui n'ont pas ce système-là. La Suisse ne connaît pas un nombre inférieur d'accidents des seniors. Donc, par conséquent, vu la lourdeur administrative de ce système-là, nous proposons dans un premier temps d'étudier à 75 ans, puis dans un deuxième temps jusqu'à 80 ans. Et s'il n'y a pas d'effet positif sur la sécurité routière, de remplacer ce système par d'autres mesures qui sont pour nous plus efficaces.
Nicolas Kessler avec nos confrères de Rhône FM. Selon le BPA, il faudrait créer un système qui ferait un usage ciblé des examens médicaux. Seuls les seniors dont l'aptitude à la conduite pose problème y seraient soumis.
La France a mis en place les contrôles renforcés à la frontière franco-italienne décidée par Paris après le refus de Rome de laisser accoster l'Ocean Viking.
L'Ocean Viking, navire humanitaire qui a accosté ce matin au port militaire de Toulon dans le sud de la France. Il doit y débarquer les 230 migrants qu'il a secourus en Méditerranée au large de la Libye. On le rappelle, il s'agit là d'un sujet qui provoque des tensions entre la France et l'Italie et donc cette décision par la France de renforcer ses contrôles. Ceux-ci sont effectifs depuis hier soir, 20 heures sur plus d'une dizaine de points de passage, y compris en montagne, a indiqué aujourd'hui à l'agence France Presse la police de l'Hexagone. Les gares, les axes secondaires, notamment près de Menton, mais aussi Sospel ou Breil-sur-Roya, les axes autoroutiers, en particulier la 8, les sorties, péages et aires d'autoroute sont contrôlés, selon la Direction Générale de la Police Nationale. Près de 500 policiers et gendarmes supplémentaires vont être mobilisés pour des contrôles afin de garantir, je cite, une sécurisation H24. À noter que ce renforcement des contrôles a suscité l'ire de la chef du gouvernement italien qui a dénoncé une réaction française agressive, incompréhensible et injustifiée. Au moins 5 personnes ont été tuées, plusieurs blessées cette nuit dans une frappe de missile sur un immeuble résidentiel de la ville de Mykolaïev dans le sud de l'Ukraine. C'est ce qu'ont indiqué les autorités régionales. Cette frappe intervient alors que l'Ukraine a annoncé hier la reconquête d'une douzaine de villages de la région de Kherson à une centaine de kilomètres où Moscou a confirmé avoir entamé son repli. Selon Volodymyr Zelensky, il s'agit de 41 villages repris dans la région où la contre-offensive ukrainienne a commencé en octobre et on l'a appris tout à l'heure, le Kremlin l'a annoncé. Il considère toujours que la totalité de la région ukrainienne de Kherson et sa capitale éponyme appartiennent à la Russie et cela en dépit de la retraite de l'armée russe de cette zone dont Moscou a revendiqué l'annexion en septembre. Par ailleurs, on le sait depuis ce matin, le président russe Vladimir Poutine ne se rendra pas au sommet du G20 en Indonésie. Ça, en fait, on le sait depuis hier. Ce que l'on sait depuis ce matin, c'est les raisons de son renoncement. Une question d'agenda, a assuré le Kremlin ce matin. Il reste que cette absence demeure perçue comme un signe d'isolement en pleine intervention militaire en Ukraine. Vainqueur des élections législatives du 1er novembre, l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou recevra officiellement dimanche le mandat pour former un nouveau gouvernement. Voilà ce qu'a annoncé aujourd'hui la présidence israélienne. Et on termine ce journal avec du sport. En hockey sur glace, la relève est à l'honneur dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche à Monté. La 14e édition de l'International Chablais Hockey Trophy démarre cet après-midi à la patinoire du Vernet. Les formations de moins de 20 ans de la Suisse, la Norvège, l'Allemagne et la Slovaquie vont s'affronter dans ce tournoi amical. Un tournoi qui reste important dans la carrière de ces jeunes joueurs. En effet, les tribunes de la patinoire montézanne seront garnies de recruteurs. Une situation habituelle lors des différentes éditions de l'ICHT, même si cette année, les scouts ne seront pas les mêmes que l'an dernier. Une différence liée à la catégorie d'âge représentée. Les explications du patron de l'événement, Cédric Bourboin.
Alors c'est différent, je dirais, l'année passée avec les U18, on a eu entre 250 et 300 recruteurs qui étaient à 99% des recruteurs de NHL, de clubs de NHL. D'ailleurs, j'en profite pour dire, on a eu la chance d'avoir quand même 27 joueurs qui ont évolué l'année passée au tournoi, qui ont été draftés au mois de juin dans des équipes de NHL. Cette année, les U20, ça va être beaucoup plus européen, pour pas dire suisse. Il y a des recruteurs qui sont là aussi, il y a beaucoup d'entraîneurs aussi d'équipes, vu que c'est aussi la pause pour eux, qui viennent regarder. Donc, et encore une fois, les recruteurs, ce qu'ils viennent rechercher aussi, c'est la classe d'âge, le même niveau, pour voir les différences et comment les joueurs ont évolué dans le temps. Parce qu'il faut bien imaginer que les recruteurs, quand ils viennent à monter, ils connaissent déjà les joueurs, ou la plupart. Donc oui, ça reste des opportunités pour le futur, pour tous ces joueurs.
Cédric Bourboin avec Ludovic Turin. Le coup d'envoi de ce 14e ICHT sera donné cet après-midi. La première rencontre opposera la Norvège à l'Allemagne à 15h30. La Suisse fera quant à elle son entrée 4 heures plus tard à 19h30.
Hockey sur glace toujours, Geoff Ward a fait ses débuts au LHC.
Le coach canadien de 60 ans a été présenté à la presse ce matin à Lausanne avant de donner son premier entraînement. Il succède à John Fust qui reprend lui les rênes de la direction sportive des Lions. Sur la glace, Geoff Ward aura fort à faire puisqu'il tentera de redresser une équipe avant-dernière de National League derrière les Tessinois de Lugano et d'Ambrì-Piotta. On l'écoute.
Vous savez, je ne m'inquiète pas trop pour le classement. Les personnes avec lesquelles j'ai discuté, en qui je fais confiance dans le monde du hockey, m'ont dit que c'était un super endroit ici. En termes d'installation, d'abord, les supporters y sont incroyables aussi et les ressources afin de construire quelque chose de solide sont en place. Donc il y a beaucoup d'éléments positifs. En ce qui concerne l'équipe elle-même, elle doit être classée à un meilleur rank actuellement. Aujourd'hui, nous allons nous entraîner pour la première fois tous ensemble. On va commencer à établir nos objectifs, décider de la direction à prendre. Tout cela commence aujourd'hui et nous nous en réjouissons beaucoup.
Des propos recueillis et traduits par nos confrères de LFM. Enfin, football. La commission de discipline de la Swiss Football League a ouvert des procédures contre Mario Balotelli et Christian Constantin. Le transalpin fait l'objet d'une enquête pour un post Instagram de lundi dans lequel il a qualifié la Super League de mafia. De son côté, le dirigeant Cédulo a pris la défense de son joueur et a déclaré dans une interview oblique que les Romands sont soumis à d'autres règles que les Suisses allemands. Notez que l'attaquant star du FC Sion fait déjà l'objet d'une procédure pour avoir fait un doigt d'honneur aux supporters balois lors du match du dernier week-end au parc Saint-Jacques.
L'actu en continu sur radiochablais.ca.